Après l'Indonesia Masters, c'est l'Indonesian Open, le Super 1000 le plus fou de la saison. Il y a eu des résultats assez dingues et des bonnes performances françaises. Et on inaugure un tout nouveau format dans ce podcast. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally.
Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that!
Salut Benoît, comment vas-tu?
Salut Ewan, bonjour à tous, très bien et toi?
Ça va bien, content de te retrouver pour cet épisode. Cet épisode, vous allez peut-être nous dire, tiens, il sort 2 jours plus tard que d'habitude. Alors, oui, c'est vrai déjà, mais on a une excuse, puisqu'on teste avec cet épisode un format différent de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'il sera en 2 parties. La première partie où je serai avec Benoît, on va faire le débrief de l'Indonesian Open, donc comme on le fait d'habitude, tableau par tableau, avec les Français, les favoris, blablabla. La deuxième partie, je serai moi avec Caroline, qui écrit pour le média Badzine, et qui était en Indonésie pendant ces 2 semaines de Indonesia Masters et Indonesian Open, qui a tout vécu de l'intérieur. Et donc, je parlerai avec elle un peu de son ressenti, parce que, avec Benoît, on fait ça de loin, mais on avait envie de... Et on avait la possibilité aussi d'avoir l'avis de quelqu'un et le ressenti de quelqu'un qui était à l'intérieur d'une des salles les plus folles de la saison. Et là, je reviens vers toi, Benoît, puisqu'on l'avait dit dans notre épisode de la semaine dernière que l'ambiance de l'Indonésie, c'était encore un truc de fou. Là, cet Indonesian Open nous l'a confirmé.
Ah ouais, clairement, ça change pas d'une semaine sur l'autre. L'ambiance, elle est toujours aussi folle. On a beau changer de ville, ça change rien au niveau de l'ambiance. Et vraiment, quel bonheur. On sait qu'on n'aura pas cette ambiance-là dans toutes les salles, toute la saison, et il faut vraiment en profiter.
Clairement, je m'appesantis pas trop là-dessus, puisqu'on va pas mal en parler avec Caroline. Donc on va rentrer avec ce qu'on fait de mieux avec Benoît, enfin ce qu'on essaye de faire de mieux, les résultats et les matchs. Je parlais de la bonne semaine en introduction de Tom Jiquel et Delphine Delru. Ils restaient sur une finale au Super 500 d'il y a 2 semaines maintenant, perdu face au vainqueur Zheng Wang, au chinois, vice-champion olympique. Là, on va commencer avec Zheng Wang, et ensuite on ira vers Jiquel Delru, puisque Benoît, Zheng Wang ont encore gagné le tableau. Cette fois, c'est face au japonais Watanabe Higashino en finale, 21-14, 21-16. Et à l'image de la semaine de Zheng Wang, où ils auront perdu qu'un seul set, même à l'image de leur tournée indonésienne, cette finale, c'était aller que d'un côté, le leur.
Ouais, c'est exactement ça. Je sais même plus quoi dire avec eux. En fait, on s'attendait tellement peu et tellement pas à ce qu'ils reviennent aussi fort, parce que on l'a pas dit, mais dans ce que t'as cité, il y a aussi les championnats d'Asie. En fait, depuis les championnats d'Asie, ils sont quasiment injouables. Leur séparation, elle a été tellement courte et ils sont revenus à un tel niveau. Enfin, honnêtement, ils sont revenus à un niveau auquel on les avait connus et auquel aucune paire était capable de les jouer. Et finalement, c'est encore une fois ce qu'on a vu cette semaine, vu la semaine dernière. Je sais pas si tu partages, mais il y a un super niveau en mixte, mais quand ils sont comme ça, les autres ont beau être à leur max, il y a eux et les autres.
Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a vraiment l'impression de revoir exactement ce qu'ils faisaient avant. Et qu'ils avaient perdu après leur séparation, Benoît, parce que du coup, c'est paradoxal. À la fois, tu te dis, ils jouent tellement bien ensemble que c'était vraiment bête de les séparer. Et à la fois, tu te dis, mais ça tournait plus avant la séparation, et c'est depuis qu'on les a remis ensemble que c'est reparti comme avant. Donc, c'est impressionnant, pour moi en tout cas, de voir à quel point ils se sont vite remis dedans, même si ils ont pas été séparés très longtemps.
Ils ont été séparés 3 semaines, le temps des vacances, mais en vrai, il y a quand même eu des circonstances qui ont fait que la pause de Zheng Jiwei a peut-être accéléré cette séparation qui aurait peut-être pas eu lieu s'il avait pas pris cette pause. Ce genre d'événement, maintenant, les deux partenaires qu'on leur avait donnés étaient clairement pas à leur niveau, je pense. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de produire ensemble, je pense qu'aujourd'hui, la Chine se pose même plus la question, finalement, puisqu'ils sont redevenus numéro 1 mondiaux cette semaine, avec un nombre de points assez phénoménal. Je pense que la Chine aujourd'hui se dit, bon, ok, nos numéro un, c'est eux, et c'est pas faire offense à Wang Wang derrière, mais pour moi, il n'y a même pas débat.
Ouais, ce qui montre aussi, c'est que les autres en face sont forts, donc ce qui montre, c'est que quand les autres gagnent, c'est parce que eux sont moins bons, et quand eux sont à leur niveau, personne ne peut les battre. Et ça, on l'avait peut-être un peu oublié avant qu'ils soient séparés, Benoît, au JO et avant les JO, quand Zheng Wang perdait plus de matchs qu'avant, c'est que ouais, on a oublié, on se rend compte maintenant, c'est parce que eux sont moins bien, quoi. Quand eux sont à leur niveau, ils sont vraiment imbattables, que ce soit par leurs compatriotes Wang Wang, que ce soit par Watanabe Higashino, Poivarone Crotter, Atanacha, ils les ont pas encore beaucoup joué, donc enfin depuis que les Thaïlandais sont meilleurs et champions du monde, donc j'attends de voir. Mais ouais, c'est trop compliqué pour les autres.
Ouais, c'est exactement ça. C'est trop compliqué pour les autres. Et peut-être qu'on l'a, t'as raison, on l'a pas assez souligné, mais aujourd'hui il y a 5 paires, les 5 meilleures paires à mon avis, qui sont vraiment à un très très haut niveau. Et il y a d'autres tableaux où t'as des joueurs qui dominent. Je pense à Axel Sen, mais je dis pas qu'il dominerait pas, mais je pense que la faiblesse des autres actuellement, en tout cas, fait qu'il y a un plus gros gap, alors qu'en mixte, le niveau, il est à un niveau, c'est vraiment un truc de fou. Et Zheng Wang, il domine encore ces mecs-là qui sont à un niveau de malade, donc c'est encore plus impressionnant, ouais, t'as raison.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ta comparaison avec le simple homme. C'est vrai qu'on a l'impression que Axel Sen met des tôles à tout le monde parce qu'il est fort, mais aussi parce que les autres sont pas au niveau. Mmh. Alors que là, on peut pas dire que les autres au mix sont pas au niveau, hein, parce que quand Zheng Wang était pas là, les Thaïlandais étaient monstrueux. Watanabe et Higashino, ils ont fait des choses incroyables. Je te parle même pas de Wang Wang qui ont été champions olympiques en battant Zheng Wang notamment. Donc ouais, là la concurrence est là, mais juste elle ne peut rien faire. Mmh. C'est impressionnant. Limite, tu vois, on a l'impression que Zheng Wang, ils se sont dit, bon allez, on vous laisse jouer un peu entre vous, et maintenant on revient et on montre qu'on est les patrons, quoi. C'est très très fort.
Ouais, je pense qu'on peut illustrer en revenant un peu sur les victoires de Zheng Wang cette semaine. 33 minutes contre Wang Wang, 21-6, 21-14. Je pense que on peut parler des autres matchs. Il y a eu Christian Senboyeu, oui, Watanabe Higashino en finale, mais je pense que 33 minutes, 6 et 14 face aux champions olympiques en titre, je trouve que c'est quand même assez significatif.
Et je trouve qu'aussi ils ont, et après on va peut-être un peu, oui, on va changer de sujet, mais ils ont une sorte d'emprise psychologique contre leurs adversaires aussi, je trouve. Des fois, ils paraissent invincibles et les autres peuvent un peu lâcher, je trouve. Parlons, avant de parler des autres paires de mix, parlons de Tom Jiquel et Delphine Delru quand même, qui ont été battus, donc je l'avais dit, par les Chinois la semaine dernière en finale. Là, ils devaient jouer contre Tang Tse, qu'ils avaient battu la semaine dernière aussi, il y a 2 semaines maintenant. Mais les Hongkongais ont déclaré forfait. Donc ça a été la paire Farias-Lima, facilement battu, 21-13, 21-8. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de ce match ?
Ouais, c'est une paire repêchée, je pense que c'était une aubaine pour Tom Jiquel et Delphine Delru.
Ouais, clairement, et là je me dis, les Français avaient la pression, mais le niveau était trop, il y avait trop d'écart pour que les Français se ratent, et effectivement ils l'ont pas du tout fait. Par contre, le match d'après, Benoît, toi tu l'avais vu comme intéressant, le match contre Lamsuslo, revanche des championnats d'Europe, la finale. Moi j'étais pas trop serein. Alors les Français l'ont gagné 22-20, 21-23, 21-11. Un match très particulier, Benoît, où les Français gagnent le premier set alors qu'ils sont pas devant, ils perdent le deuxième alors que pour le coup ils étaient devant, et finalement au troisième, là ils ont vraiment haussé leur niveau et montré que, à mon avis, ils étaient meilleurs que les Allemands.
Ouais, ça se vérifie. Enfin, je veux dire, les deux premiers sets sont relativement décevants en termes de niveau de jeu des deux paires. Je parle pas forcément de Tom et Delphine, mais et le troisième, t'as vraiment cette capacité à élever le niveau. Ça fait maintenant 4 ans aux confrontations. Alors oui, il y a cette défaite qui fait tache au championnat d'Europe, mais je pense quand même que oui, il y a un écart de niveau entre ces deux paires, et Jiquel Delru sont meilleurs tout simplement que les Allemands, à mon avis.
Oui, et puis même celles qui perdent au final des championnats d'Europe, c'est un peu paradoxal, et on dirait vraiment que, enfin voilà, c'est pas être mauvais perdant de dire que je trouve qu'ils avaient l'air meilleurs même alors qu'ils ont perdu le match, tu vois.
Carrément.
Et derrière, défaite face à Watanabe Higashino, les Japonais. Les Français gagnent le premier set 24-22, derrière ils perdent 21-11, 21-13. Bah là, ils ont, contrairement au match contre Zheng Wang en finale il y a 2 semaines, ils ont su concrétiser leur bon début de match en remportant le premier set, mais derrière, Je sais pas si les Français étaient ont craqué physiquement, je saurais pas trop le dire, mais bah les Japonais ont rétabli la hiérarchie, quoi.
Ouais, c'était trop dur. Watanabe et Gashino, dans le premier, ils étaient moyens, et tu peux prendre un set contre Watanabe et Gashino moyen, mais dans le deuxième, Gashino, enfin, elle a... Je me souviens de Baptiste Carême qui dit il faut prendre le filet pendant une pause, et Delphine Delrue n'y arrivait plus, en fait, parce que Higashino faisait trop le taf sur l'avant du court, et ça m'a vraiment marqué, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment révélateur du deuxième et du troisième, c'est qu'ils ont mis, y avait plus la place.
Donc voilà pour la seule paire française de ce tableau. Pour rester un peu sur le mixte, Poivara Nukrot et Ratanachai qui étaient sortis au premier tour contre Tom Jiquel et Delphine Delrue, là, il y a deux semaines, qui ont rechuté contre Golai, également au premier tour, 22-20 au troisième, alors pourtant que Golai et surtout Go était victime d'une intoxication alimentaire et a fini en PLS sur le terrain.
C'est sale tournée indonésienne. Ils n'ont pas été mauvais là, en tout cas, mais tu sens aussi que, je pense que la défaite au premier tour la semaine dernière, ça leur a mis un petit coup de pression, le retour au niveau de Zheng Wang. Clairement, ils n'ont pas montré leur meilleur bad. Je vais pas, enfin voilà, ils ont fait une mauvaise tournée indonésienne, mais c'est pas non plus catastrophique. Ils sont numéro 2 mondiaux, bon voilà.
Voilà, ils reviennent hein, aussi.
Ouais,
ils ont
voilà.
Fait une petite pause aussi.
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est vraiment une paire qui a besoin de rythme. Quand ils jouaient vraiment beaucoup, ils étaient ultra bons et ils avaient l'air d'avoir de l'énergie à l'infini. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'ils repartent un peu. Benoît, de quoi tu veux parler ? Est-ce que tu veux parler peut-être de Seo Chae, où tu avais beaucoup de bonnes choses à dire sur eux la semaine dernière ? J'imagine que tu en as encore, puisqu'ils font demi-finale perdue contre Watanabe et Gashino. Ils n'ont pas battu de paire monstrueuse, c'est le cas de le dire, mais ça reste encore solide et on ne demande qu'à en voir plus.
Ouais, on demande surtout à ce qu'ils soient constants, parce que je pense que leur position, elle est dans le top 5 mondial, à la place de Jordan Octavianti à l'heure actuelle. On demande cette constance-là qu'ils ont eue en Indonésie, on la voudrait toute la saison, parce que je reste persuadé que là aussi, la séparation, ça a été un échec, en fait, s'ils reviennent aussi fort, c'est peut-être pas un échec, mais je pense que les partenaires qu'ils ont eus n'étaient pas non plus à leur niveau.
Ouais, non, très clairement. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur le mix ? Moi, je voulais juste parler de la bonne semaine de Christian Senboyeux, qui battent Tan Lai, Ko et Om, et qui sont les seuls, mine de rien, à prendre un set à Zheng Wang, les futurs vainqueurs. Donc, belle semaine des Danois. Benoît, rien à rajouter sur le mix ?
Non, c'est tout pour moi.
On va tout de suite passer au simple dames.
I'm the bad guy.
Take that.
Simple dame, Benoît, j'ai l'impression que tu vas avoir des choses à nous dire sur cette finale et sur les autres matchs de la vainqueur du tableau. Tai Tsuying qui bat Wang Zi, 21-23, 21-6, 21-15. Tai Tsuying qui s'est énervée après avoir perdu le premier set où elle a globalement été dominée au score puisqu'elle lui met un 11-0 au deuxième set et après elle repart avec un 6-1 au troisième set. Et même si elle a été rejointe après dans le troisième, elle a accéléré sur la fin. Et globalement, Tai Tsuying qui semble revenu à un niveau... je pense qu'on peut le dire maintenant à son meilleur niveau. Pendant longtemps, on disait, ouais, là, elle revient bien, mais peut-être pas au top. Là, moi, de ce que j'ai vu cette semaine, en tout cas, tu connais mieux que moi la joueuse, mais elle m'a vraiment impressionné.
Ouais, puis l'attitude. On n'avait pas vu Tai Tsuying serrer le poing depuis très très longtemps, même quand elle gagnait. Même la semaine dernière, j'avais pas vraiment vu ça chez elle. J'ai été assez impressionné par son niveau, parce que Wang Zi fait une vraie vraie semaine. Quand elle prend le premier, tu te dis, ok, Wang Zi, elle est pas là pour rigoler, mais le niveau de Tai Tsuying sur la fin de match et globalement, c'est Tai Tsuying. C'est les meilleures années de Tai Tsuying, c'est 2018-2019 quand elle remporte son premier, peut-être pas son deuxième Indonesia Open, et là c'est le troisième du coup. Mais ouais, on a une Tai Tsuying taille numéro 1 mondiale clairement.
Ouais, c'est ça, le troisième après 2018 et 2016.
Ouais.
Et aussi force mentale incroyable. En fait, force mentale et image qu'elle renvoie d'être un peu insubmersible, notamment contre Chen Yufei. Où elle est menée 1-7-0 et elle sauve je sais pas combien de volants de match, Benoît, mais
3-4 je crois, ouais.
Mais 5, ouais, 5.
5,
ouais,
5 là.
Ouais. Mais, et qu'après elle remporte donc 26-24 le deuxième Et 21-12 le troisième, c'est ce qu'elle dégage, quoi. Et je pense que c'est très important pour Tai Tsuing. Et après, on verra avec Kento Momota que lui a dégagé ça par le passé et que maintenant, on le retrouve absolument plus.
Ouais, bah c'est son jeu. Enfin, c'est... De toute façon, Tai Tsuing, quand elle gagne, elle dégage cette impression. C'est pas le cas de beaucoup de joueurs. Tu l'as dit, de Kento Momota, c'est quand même des joueurs de classe mondiale plus-plus qui sont capables de dégager une telle force quand ils gagnent. C'est cool de la revoir à ce niveau et forcément on a envie que Chen Yufei, que Carolina Marin soient tout au niveau parce que franchement il y a peut-être un des plus beaux top 5 mondial des 10 dernières années là, qu'on peut avoir.
Ouais, clairement, avec l'arrivée d'An Se-young depuis, dire que c'est le plus gros changement depuis la dernière fois où Tai Tsuing a été au top, tu vois, donc hâte de voir ça. Tu parlais de Chen Yufei, elle a été au niveau puisqu'elle a fait une demi où j'ai dit elle a eu des volants de match contre Tai Tsuing. Par contre, Carolina Marin a eu plus de mal, elle qui n'avait pas joué la semaine dernière pour arriver au top pour ce tournoi. Elle a un peu galéré contre la Danoise Julie Dawal-Jacobsen, mais elle a finalement gagné 21-17, 21-17. Par contre, elle a perdu contre Wang Ziyi, futur finaliste, qui s'est offert, qui s'est quand même offert en l'espace de 3 matchs, Marin Yamaguchi et Ebing Zhao. Donc voilà, la championne d'Asie 2022 qui a battu la championne d'Europe 2022.
Ouais, je pense que pour Marin, il va falloir du rythme, mais... On va pas trop s'emballer parce que revenir encore d'une blessure comme elle l'a fait la première fois, rien ne garantit qu'elle y arrivera à une deuxième, tu vois. Donc oui, tu tombes sur Wang Ziyi en feu, c'est vrai aussi, mais voilà, il va falloir que Carolina Marin reprenne ses marques. On l'avait vu au championnat d'Europe, c'était au-dessus du lot, mais on avait bien vu que c'était pas à un niveau top 5 mondial encore.
Donc voilà, Yamaguchi, je l'ai dit, qui a aussi perdu contre Wang Ziyi. Okuhara qui a perdu contre Chen Yufei, qui elle aussi va mettre un peu de temps à revenir. Et Intanon qui a été assez décevante en perdant contre Lin Kerfeldt dès le deuxième tour. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah, peut-être la belle victoire de Kirsty Gilmour contre Christopher Sen.
Carrément.
Ouais, elle l'avait déjà battu en championnat d'Europe dernier, je crois.
Il me semble aussi, mais Kirsty, on en parlait tous les deux, mais sa legacy dans le badminton européen, c'est quand même en train de devenir quelque chose, hein, parce que oui, il y a Carolina Marin et tout, on parle beaucoup d'elle, mais la constance de Kirsty Gilmour sur ses quasiment 10 dernières années, c'est impressionnant. Hein.
Ouais, et puis là, je trouve que sur ces derniers mois, elle a vraiment un retour en forme qu'elle n'avait pas eu depuis un moment. Ouais. Donc, c'est impressionnant. Tu veux rajouter quelque chose sur le simple dame?
Non, un peu décevant le niveau d'An Se-young sur cette tournée, mais bon, après, les autres sont aussi à un niveau assez fort, donc il va falloir qu'elle aussi, maintenant, elle élève son niveau pour aller chercher ce genre de tournoi.
Allez, on passe tout de suite au double dame.
Aimez-vous le badminton?
Oh non.
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Le double dame, un match entre japonaises, tiens, surprenant pour une finale de double dame, où ce sont Nami Matsuyama et Shida, qui se sont imposés face à Fukushima Hirota, leurs compatriotes. Donc, 18-21, 21-14, 21-17, 1h15 de match. Et Matsuyama Shida qui ont remontré sur ce match et sur la semaine le niveau qu'elles avaient il me semble que c'était en fin d'année 2021 où elles étaient très 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 intéressantes.
Bah ouais, et du coup elles conservent leur titre parce qu'elles étaient tenantes du titre. C'est vrai que on le répète souvent, on a eu des doutes sur elles, mais maintenant il y a quoi? Je veux pas dire de bêtises, mais il y a un All England, deux Indonesia Open. Bon, ok, on parle à chaque fois de Super 1000, bah. Il va falloir les compter, les finales de double dame entre japonaises, je pense qu'on est reparti pour une série, parce que Fukushima et Hirota sont bien revenus. Honnêtement, on a eu une belle finale, hein. Si vous aimez le bat tactique, où ça réfléchit beaucoup, c'était une finale assez sympa. Ça fait plaisir de revoir les japonaises vraiment revenir à leur niveau, parce que je pense que, hormis Chenjia, il n'y a personne qui peut rivaliser avec elles.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Chen Jia est dans un second temps peut-être les Coréennes, mais je pense que c'est surtout Chen Jia qui sont les seules à pouvoir empêcher entre guillemets une finale entre japonaises. Alors parlons un peu du tableau et d'abord de la paire française. Margot Lambert et Anne Tran qui se sont arrêtées dès le premier tour contre les jeunes indonésiennes Kusuma Pratiwi. 21-19, 17-21, 21-15. Benoît, il me semble que tu m'avais parlé de ce match et que tu avais trouvé que les Françaises avaient fait un bon match et qu'elles auraient, que c'était dommage du coup qu'elles le remportent pas.
Ouais, c'était... Je vais pas dire qu'elles méritaient mieux, mais je le pense un peu parce que moi, je les ai trouvées vraiment, vraiment intéressantes. Ah, c'est dur, hein, c'est des paires qui sont... je sais pas, elles doivent être quoi, 100 au ranking. Elles étaient 100, elles ont dû prendre 40 places en faisant ce résultat-là. Donc... C'est une paire en vrai, on sait très bien que c'est pas leur vrai classement, c'est compliqué, c'est toujours compliqué, mais faudrait gagner ce genre de match quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est le genre de match qui te fait vraiment du bien quand tu le gagnes, je pense.
Bah ouais.
Même si après tu perds contre Li Xin, on s'en fiche quoi, c'est juste...
Oui,
et puis en plus, c'est ce que j'allais dire, gagner un premier tour sur un Super 1000, tu te mets vraiment bien quoi. Rahayu Ramadanti, la paire indonésienne qui vient d'être formée, a encore pas mal fait bouger le tableau en battant Matsumoto Nagara dès le premier tour, 21-17 au troisième. Zhang Zheng, les chinoises, au deuxième tour, avant de perdre face à Li Xin, qu'elles avaient battu la semaine dernière en quart. Li Xin qui ont perdu elles-mêmes contre Fukushima et Rota en demi. Benoît, de quoi tu veux parler dans ce tableau?
Matsumoto Nagara, c'est vrai que c'est une petite déception, mais je pense qu'elles vont revenir. Juste une petite stat, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Matsuyama Shida, du coup, elles ont remporté les deux premiers Super 1000 de l'année et en allant chercher le China Open dans quelques mois, elles pourraient prendre les trois Super 1000 qui se sont disputés en 2022, donc ce serait quand même assez inattendu et pourtant exceptionnel.
Ouais, faudra qu'on aille voir dans les archives si ça a été fait beaucoup de fois. Pour le coup,
en double dame, non.
Je sais pas. En double dame, je pense pas. Mais en tout cas, ouais, c'est assez impressionnant. Parce que ouais, elle gagne aussi le Thailand Open, le Super 500. Donc ouais, l'année qu'elles font, quand on voit la concurrence de ce tableau, c'est assez impressionnant. Allez, on passe tout de suite au simple homme.
Look at this, look at that.
Le simple homme, tu parlais de Matsuyama Shida qui ont gagné les deux Super 1000 disputés pour l'instant. C'est également le cas de Victor Axelsen qui, après le All England, gagne cet Indonesian Open et aussi après l'Indonesia Masters de la semaine dernière. Cette fois, on va passer très vite sur cette finale puisque cette finale est passée très vite. Victoire contre le chinois Zhao Zhenpeng, 21-9, 21-10. Pour le coup, le chinois fait une belle semaine, mais comme beaucoup, il avait rien à faire. Il avait rien contre Victor Axelsen plutôt.
Ouais, il avait pas la place. Je crois qu'il l'a déjà battu, mais il y a longtemps. Je vérifie en même temps que je vous dis, parce que oui, il l'a battu, c'était en 2018. Ça fait quand même 5 ans.
Ça a dû lui sembler loin quand il était sur le terrain, on galérait à mettre un point.
Ah, c'est terrible, hein. Il a pris vraiment une valise. Il n'y a pas photo toute la semaine d'Axelsen, de toute façon, hormis la demi-finale face à Lidia, qui je pense est un des seuls à être capable de le battre. En vrai, même quand il perd un set contre Ginting, il y a aucun moment où t'as de doute. Il est trop fort, mais trop fort, c'est ce qu'on disait aussi parce que les autres sont pas forcément tous au niveau. Je dis pas tous parce que certains sont au niveau, mais du coup c'est un peu décevant les tableaux de simple homme. Enfin, genre tu regardes les matchs vite fait d'Axelsen, mais c'est quand même le niveau est quand même décevant quand t'arrives dans le dernier carré, je trouve.
Ah ouais, je suis complètement d'accord. Axelsen est à son niveau max, mais les autres...
Ginting
pas au niveau. Ginting pas au niveau. Christy pas au niveau. Lizija, niveau intéressant, mais pas le niveau qu'il avait quand il a gagné le All England.
Ouais.
Bon, après, on peut pas lui demander de l'avoir toutes les semaines non plus. Hein. Donc Lizija, ok. Mais sinon, ces derniers temps, on va en parler, mais Kidambi, j'ai l'impression qu'il replonge un peu. Shu Tianchen, pas excellent. Viti Tsarn... et replonger un peu aussi. Loki New, pas mauvais, mais galère à faire des résultats sur la durée. Momota, on va en parler, mais on va en parler très très vite parce que il est mauvais, et donc ça fait beaucoup quand même. Hein, et c'est dommage, ouais, parce que même pour Axelsen, je sais pas si c'est vraiment... c'est dur de jauger son niveau, quoi. On sait qu'il est très fort, mais le truc, c'est que les autres en face sont pas bons, quoi.
C'est exactement ça, tu vois, Viti Tsarn, typiquement, bon, il manque ce match référence, il prend des sales tirages, mais il manque ce match où il va taper Shu Tianchen. c'est, il y a pas que lui, hein. T'en as cité d'autres. Lokinyu, tu vois, il perd 22-20 en quart contre Lee Jia au troisième. Je pense que ça doit passer par ces gars-là parce que aujourd'hui, Momota, la vérité, c'est que le mot c'était vraiment ça brise le cœur parce que il a été tellement fort. Je pense que le Momota à son prime, il serait capable de concurrencer Axel Sen, même à ce niveau-là, tu vois. Et Lee Jia à son prime aussi. Les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais Ginting à son prime, je pense aussi qu'il pourrait faire mieux que ce qu'il a fait là. Et contrairement au mixte où on se dit tout le monde est au max et les Chinois sont plus forts, là on se dit Axel Sen est au max, mais les autres sont pas au max et du coup c'est décevant.
Bah parlons des autres alors et on fera les Français un peu après. Commençons par Kento Momota, tête de série 2 sur ce tournoi, qui lui n'était pas là la semaine dernière, me semble-t-il, et qui là perd 21-19, 19-21, 21-14 au troisième contre Rasmus Gamke. Et surtout, Benoît, bon, on peut se dire il prend 3-7 contre un mec qui est dans le top 20, mais c'est surtout la manière, parce que dans le troisième, il était au coude à coude, ils étaient notamment à 13 partout, et il s'est effondré, et c'est surtout l'image qu'il laissait sur le terrain, le body language, c'était pas loin d'être un désastre.
Ouais, je sais pas, en vrai, si on peut parler de dépression pour Kento Momota, mais il y a un peu de ça quand même, tu sens que le gars, il est là... physiquement il est pas catastrophique, mais tu sens que la confiance elle a tellement disparu qu'il arrive plus, il arrive tout simplement plus. Et j'ai rien contre Gamke, mais pour moi Gamke c'est un des joueurs les plus surcotés du top 20 mondial, c'est un des joueurs qui a le moins sa place dans le top 20 mondial, et c'est pas méchant envers lui, mais juste pour moi en termes de jeu et de niveau de jeu, c'est un des joueurs qui a le moins sa place dans ce top 20 mondial. Donc c'est dire que quand Kento Momota perd contre un joueur comme ça, c'est inquiétant.
Bah Gamke c'est un rameur quoi, c'est le mec il est pas mauvais.
Mais non, il est pas mauvais.
Mais à la fois, il fait pas lever les foules quand il joue. Il est assez solide, il perd peu souvent contre moins fort que lui, mais ouais, c'est pas un régal quoi. Et là Kento Momota, pour revenir sur ce que tu disais, moi je suis d'accord, je suis pas médecin, je sais pas si on peut parler d'état dépressif, mais il fait peine à voir sur le terrain. Ouais. Il regarde dans le vide, il a les bras ballants. Enfin, je sais pas s'il a un suivi psychologique, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, il a l'air affûté physiquement et que ça se joue plus dans la tête. Mais c'est même complètement dans la tête.
Oui, carrément. On se souvient de Lindan qui était pas du tout en condition physique. Je le cite parce que c'est peut-être l'exemple le plus marquant, mais là, on est très loin de ça. Tu sens que c'est pas un problème physique, c'est juste. Il arrive plus à mettre en place son bad. Enfin, je veux dire, Momota, il est pas passé du niveau qu'il avait à ce qu'il montre aujourd'hui. C'est tout simplement pas possible avec cet état de forme. C'est psychologique, c'est mental, je pense. Et c'est dur à voir.
Ouais, je parlais de Tai Suying qui a retrouvé son niveau, mais elle est pas descendue aussi bas que Momota actuellement, quoi. Donc, je pense que c'est tout autre chose et beaucoup plus compliqué. Lee Jia, lui, donc, a perdu contre... On peut parler des matchs d'Axel Sen, parce que il est notamment son quart et sa demi. Tu l'as dit, contre Ginting, il perd le deuxième 21-19. Mais on l'a vu avec ce qu'il a fait à la fin du deuxième, où il rentre en courant jusqu'à son sac. On a bien senti que, ok, il a perdu le deuxième, mais qu'il en avait encore bien sous le pied et qu'il n'était pas du tout catastrophé. Et on l'a bien vu quand il lui met 21-9 dans la foulée, quoi. Et contre Lee Jia, c'est un peu différent parce que il perd le premier et il gagne le deuxième très facilement. Et dans le troisième, on pense qu'il a fait le plus dur. Et là, Benoît, il rate 4 volants de match et même il en concède un. Et là, il a été giga solide, mais on a peu l'habitude de voir ça avec le logiciel Axel Sen, quoi.
Ouais, c'est un peu dommage en fait parce que je pense que sur la fin de set, sur les 10 derniers points, Lee Jia était bien meilleur. Il a trouvé son rythme, mais il a trouvé son rythme beaucoup trop tard en fait dans le troisième. Et je peux vous dire qu'Axel Sen, il a tremblé et il y avait de quoi parce que je dirais pas qu'il mettait plus un pied devant l'autre, mais il était dominé. Ça faisait longtemps même sur une séquence qu'on n'avait pas forcément vu ça. Et c'est dommage que Lee Jia ait pas trouvé avant ce rythme là parce que franchement, je pense que il y avait vraiment de quoi faire face à un Axel Sen tendu. Et bon, on se le disait en off, on peut le dire, on le trouvait même chelou, c'est le terme qu'on a employé dans ses réactions. On le trouve de plus en plus bizarre parfois, les émotions sont fois mille surjouées, il est vraiment bizarre.
Ouais, clairement. Pour revenir à Lee Jia, Moi, quand il prend 21-11 dans le deuxième et qu'il court plus sur les volants, j'ai vraiment cru que... Et pour ce qu'il montrait aussi, ce qu'il dégageait, j'ai vraiment cru qu'il était mort et que le troisième allait se passer de la même manière. Mais ouais, en fait, il en a vraiment gardé, mais j'avais vraiment pas cette impression, tu vois. Donc j'ai été surpris qu'il arrive à refaire douter Axelsen et à lui en remettre pour tenir le troisième.
Après, il avait joué à sa décharge, il avait joué un gros match contre Loki New la veille où il gagne 22-20 au troisième. Je pense que ça a aussi pesé, mais bon, après, ça c'est lui qui a qu'à se faciliter la tâche, tu vois. Mais
c'est pour ça que je me suis dit ça, justement. Ouais, je me suis dit, bon, ok, il est mort. Et en fait, quand il repart dans le troisième, je me dis, ah ouais, donc en fait, il se reposait, mais il en a encore, d'accord. Mais ce serait cool qu'il arrive à garder ce niveau, Lizidia, parce que je pense, comme toi, que c'est lui qui peut, en attendant que Momota revienne à un niveau, si ça arrive un jour, à un niveau intéressant, je pense qu'en l'absence de Momota, c'est lui qui peut être le principal concurrent de Victor Axelsen. Dans la partie de tableau un peu plus basse, on en parle un peu moins, mais le chinois Zhao Zhongpeng, du coup, il a eu une semaine, je vais pas dire tranquille, parce qu'il fallait les gagner, mais bon, il a battu Pranoy, Li Chuqiu, Kalyu, et surtout, on va dire, Jonathan Christie dès le deuxième tour. C'est ça, sa victoire qui lui a ouvert un peu le tableau. Et c'est surtout... c'est surtout celle-là qu'on n'attendait pas, Benoît, parce que Christie, bon, il oscille toujours entre le bon et le vraiment pas dingue.
Ouais, après Christie, un mec qui est encore plus mauvais que lui ces derniers mois, c'est Wang Sharwen. Il faut bien Wang Sharwen. Sinon, pour que Christie gagne un match, il faut bien Wang Sharwen actuellement. Je pense que c'est assez terrible à dire, mais c'est un peu ça, quoi.
Ouais. Et Shu Qianshen qui rate une grosse occasion parce que lui, vite il sort au premier tour et après il avait un tableau vraiment ouvert.
Hein. Ouais,
il perd contre Li Chuqiu. Vraiment, il avait l'occasion de faire beaucoup mieux.
Ah, oui, clairement.
Les Français de ce tableau. On va commencer par Thomas Rouxel qui n'a pas passé le premier tour contre Samir Verma. 21-19, 21-15. Bon, on l'a dit, Thomas Rouxel, je pense qu'il sera d'accord avec ça. Il vit pas la meilleure passe de sa carrière. Et là, c'est dommage parce qu'avec un tirage, je peux le dire, favorable pour un premier tour de Super 1000, il avait l'occasion de prendre des points et de reprendre de la confiance à fond, quoi. Même s'il avait jamais battu, c'est quand même un mec qui était abordable et il avait l'occasion de se mettre vraiment bien, quoi.
Ouais, le problème, c'est le profil du joueur, en plus de la période difficile que vit Thomas Rouxel. C'est pas un profil de joueur qui lui plaît vraiment, mais Verma, il gagne pas non plus un match cette saison, hein. Pas un match, il a gagné 3 matchs, je crois, en 2022. Mais il gagne pas un gros match. Et c'est dur pour Thomas Rouxel, vraiment. Je sais qu'on le répète et tout. Il est venu dans ce podcast, donc c'est pas contre lui. Mais il a été capable de tellement belles choses parfois que lui aussi, c'est dur de le voir à ce niveau-là. Même si c'est moindre que Momota, parce que ça a jamais été un top 10 mondial. C'est quand même très dur, je pense, même pour lui de voir que il arrive plus à gagner un match sur le circuit, quoi.
Ouais, non, très clairement. Thomas Junior Popov, lui, en a gagné un match contre Nathan Guyen. Victoire 21-15, 21-15. Et derrière, il repère contre Loki New, contre qui il avait perdu la semaine d'avant, 21-16, 21-9. Bon, on l'avait dit, Loki New, c'est un joueur qui lui correspond vraiment pas. Mais en battant Nathan Guyen, il a fait le boulot, Thomas Junior Popov, contre un mec qui connaît vraiment très bien, contre qui il jouait déjà en junior et tout. C'était vraiment ce match-là qu'il fallait gagner. Et... un temps, ils avaient le même niveau, mais là, il a montré qu'il avait vraiment passé un palier et que maintenant, il est vraiment meilleur que Nathan Nguyen.
Ouais, clairement, c'est ce qu'on a attendu de Nathan Nguyen il y a quelques années. Vraiment au-dessus, en fait, de Nathan Nguyen. Et contre Loki New, même constat que la semaine dernière, c'est que c'est pas du tout un profil qui lui convient. Et autant, je pense qu'il peut faire déjouer pas mal de joueurs du top 15 mondial, autant des mecs comme Loki New, c'est très compliqué.
Et Brice Leverdez qui rejouait contre Kidambi Srikant après leur match en Thaïlande et aussi en Allemagne. C'était leur troisième match de l'année. Les deux matchs, Leverdez avait perdu au troisième set. Et cette fois, il l'a gagné en 2-7, 23-21, 21-10. Donc voilà, belle victoire de Brice Leverdez. Et j'ai envie de dire... Benoît, toi et moi, on disait que ces derniers temps, on le sentait plus libéré et qu'à chaque fois, il était pas loin de battre des gros joueurs. Là, c'est cool parce que je suis content pour lui parce qu'il est récompensé de tous ces bons matchs, on va dire.
Ouais, de ouf. Il est vraiment pas mauvais hein, en ce moment. C'est juste qu'il manquait peut-être cette caisse, on l'avait déjà dit, mais voilà, face à un Kidambi qui replonge un tout petit peu ces derniers temps et allez, bim, il est allé nous en chercher une belle, Brice Leverdez. Et vraiment, ouais, ça fait plaisir.
Ouais, match où il est mené tout le premier set et il le braque un peu sur la fin et derrière il s'envole au deuxième, c'est magnifique. Malheureusement contre Rasmus Gamke, joueur pour le coup beaucoup plus jeune, il n'y a pas eu grand chose à faire et en plus avec le profil un peu de rameur dont je parlais tout à l'heure, Brice Leverdet, je pense qu'il aime bien jouer contre des mecs qui attaquent parce qu'il peut contrer. Là il a pas eu grand chose à se mettre sous la dent contre Gamke qui a gagné 21-12, 21-15. Benoît, un mot sur ce match?
Ouais, non, t'as bien analysé le truc, c'est que en plus c'est un Brice Leverdet, on sait que il a plus la caisse, alors quand tu joues contre un mec qui rame comme Gamke qui peut jouer 2 heures, 2 heures et demie, c'est trop compliqué malheureusement. Mais ça passe un tour sur un super 1000. Ceux qui ont pensé que Brice Leverdet était cramé, on l'a eu un temps pensé, mais quand on voit la saison qu'il fait, bah, je peux vous dire que c'est très loin d'être le cas.
Ouais, peut-être dont lui-même, hein, je sais pas ce que lui voulait, mais peut-être que là au moins il s'est montré peut-être aussi à lui-même et aux autres effectivement qu'il est encore capable de faire ce genre de perf. Mmh. Quelque chose à rajouter sur le simple homme ou pas?
Non, on en a bien parlé.
Allez, on passe au dernier tableau, le double homme. Oh my goodness! Double homme remporté par les Chinois. Ta nouvelle paire préférée, je crois, Benoît, Li Yuchen et Hu Shuangyi.
Ça me saoule. Non,
avant que tu prennes la parole, pardon, contre les Coréens Choi Kim, 21-17, 23-21.
Après, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la Chine de cette Liu, ça marche de mettre deux mecs qui font la taille de la Tour Eiffel ensemble. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un qui a arrêté, ben on va en trouver un autre. Ben, il y en a d'autres.
En vrai, c'est vraiment ça. Ils ont vraiment remis le même profil, quoi.
Ben, bien sûr.
Ben, ça marche.
Ben, en tout cas, à l'heure actuelle, difficile de dire le contraire. Enfin, je veux dire, ils sont déjà performants. C'est allé très vite. Oui, clairement. Ils font pas rêver, même si quand même, je trouve que leur jeu est un peu plus évolué que celui qu'on voyait avant avec Liliu. Dans le sens où ils vont un peu plus vers l'avant, ils sont un peu plus offensifs, ça fait pas rêver.
Moins stéréotypé, ouais.
Ouais, ça, c'est très loin de faire rêver quand même, mais ils sont 45e mondial aujourd'hui, mais c'est une paire du. Bah, ce sera probablement la paire numéro 1 chinoise. Je me mouille pas trop, mais fin 2022, ce sera eux les numéro 1 chinois.
Oui, et puis je pense qu'ils en ont les épaules, contrairement à beaucoup d'autres de paires chinoises. Eux, au moins, voilà, ils font une bonne semaine quand même. Hassan Setiawan, Aryun Kapila, Alfian Ardianto, Chiasso et donc Choi Kim à leur tableau de chasse, c'est vraiment pas mal, ouais.
Fallait assumer aussi Hu Shuangyi, on a eu des doutes nous, mais pas que nous, je pense, parce que c'est lui qui jouait avec Wang Yakyong et on lui a dit frérot elle va se remettre avec Zheng Ziwei parce que t'as pas le niveau. Enfin, je sais pas si ça a été dit comme ça, mais enfin, c'est l'image un peu qu'on en a. Fallait garder le moral et il montre un double homme qu'il assume toute la confiance que la Chine lui a donnée.
Oui, et puis ça s'explique aussi par le fait qu'en double homme, au moins, il remplace un mec dont il a le profil.
Oui.
On le met pas à la place de Zheng Ziwei, qui est le joueur le plus rapide du circuit, alors que lui, il est plutôt lent.
Oui, clairement.
Ça peut s'expliquer comme ça aussi. Et je pense que la Fédé chinoise est en train de réussir son pari, parce que tu vois, moi je me dis, avec les paires actuelles, c'était pas forcément évident de remettre un mec un peu lent, tu vois, mais finalement ça fonctionne.
Mmh.
En parlant de paires rapides, mais qui marchent pas, parlons de Gideon Tsukamulyo, qui ont gagné leur premier tour contre leur compatriote Pankarianira Santoso, 21-19, 21-16, avant de perdre face à Kang Seo, les Coréens. Alors ok, Kang Seo, ils ont rien à faire à leur place de 70e mondial. Ils doivent être tête de série tous les jours, mais perdre 14 et 12 quand t'es les Minions, c'est difficile. Il y a des explications, mais ça reste très sec comme défaite à domicile, dans un tournoi où d'habitude ils surdominent, ils avaient gagné les trois dernières éditions, pardon. C'est un petit coup qui doit faire mal, je pense.
Ouais, je pense aussi. C'est surtout l'attitude qui me dérange en fait. Il revient de blessure, Gideon, et c'est vrai. Je pense qu'il faut leur laisser du temps parce qu'on voit bien qu'il est pas prêt encore à jouer à ce niveau-là. Mais l'attitude de Tsukamulyo, quand t'allais pas bien, Gideon, lui, il se défonçait sur le terrain. Enfin, Tsukamulyo, j'ai vu qu'il y avait il y avait beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux des supporters indonésiens. Et je trouve ça totalement justifié, parce que je trouve ça vraiment nul ce qu'il fait. Je pense même faire ça chez lui, tu vois, il ferait ça à Paris, je lui en voudrais moins, mais il fait ça chez lui devant des mecs qui l'adulent. Je pense que le public lui rend beaucoup de ce qu'il donne. Et ouais, moi je trouve ça très très moyen, mais c'est un peu à l'image du personnage, un peu, je trouve, finalement.
Le truc, c'est que Dune, il y a deux choses, je pense. Dune, lui, il appuie tellement sur le bouton on-off que des fois, il appuie sur on, mais que ça marche pas. Je pense que c'est ce qui s'est passé contre Kang Seo.
Ouais, peut-être.
Et de deux, là, Gideon revient de blessure, il est pas en forme, et du coup, Sukamuno doit courir plus, et aller plus sur l'arrière du cours, ce qu'il fait pas d'habitude, et ça, il y arrive pas. Ou en tout cas, il y arrive pas sur la durée, puisque là, les Coréens, bah, l'ont massacré, quoi. Donc, c'est vrai que ça ne marche pas. Kang Seo qui ont fait une bonne semaine mais qui ont perdu donc face à leur compatriote Choi Kim, l'ancien partenaire de Seo.
Bah, il s'était joué la semaine dernière déjà, et c'est Kang Seo qui l'avait emporté, donc allez, un partout, balle au centre.
Ouais, bah c'est Seo, c'est celui qu'on connaît le plus parce qu'il joue aussi en mixte, et du coup Kang Seo, c'est vrai qu'on les a pas mal vus parce qu'en plus ils avaient gagné en Corée, je crois, chez eux.
Ouais.
Mais Choi Kim, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça peut viser du top 10 mondial mieux?
Ouais, je pense que c'est deux paires du top 10 mondial. Je pense sincèrement, sans faire offense à qui que ce soit, Kim Kang, on l'a pas dit, mais enfin on en avait parlé à la Thomas, je crois. Ils étaient partenaires en fait, ils ont été vice-champions du monde junior ou champions du monde junior, j'ai plus en tête, mais. Ouais, vrai père, et je pense que Choi est le maillon faible des 4 joueurs, clairement. Du coup, top 10 mondial, oui, mais j'ai quand même l'impression que Kang Seo réussiront à faire peut-être plus de choses contre des grosses paires ou dans des gros tournois type mondiaux ou championnat d'Asie. Peut-être que je me trompe, je sais pas ce que t'en penses.
Bah, j'avoue, je ne sais pas beaucoup jouer Choi Kim, donc je ne saurais pas dire. Choi m'a pas beaucoup fait forte impression quand il jouait avec Seo. Le truc, c'est que Seo peut faire des gros trucs sur des bons trucs sur des gros tournois, mais il peut aussi totalement passer à travers. Donc,
ils sont sympas à voir jouer, hein, ces deux paires quand même. C'est pas dégueu, ça produit.
Ah oui,
genre.
Non, à voir jouer par contre, si vous voulez du spectacle, ouais, c'est très sympa.
Clairement.
Les paires françaises, donc il y en avait deux qui n'ont pas passé le premier tour. Delruvillégé qui ont perdu contre Carnando Martin 21-16, 21-17. Pour le coup, bah, Benoît, qu'est-ce que tu veux en dire?
Bah, pas grand-chose à dire. Carnando Martin, on les critique et on peut encore leur tomber dessus pour leur perf contre des grosses paires parce qu'ils ont été bons dès le départ, mais contre des paires type JKL Delru, pas du tout. Delruvillégé ou des paires moins fortes qu'eux, en tout cas, ils perdent quand même peu de matchs.
Ouais, voilà, c'est ça, il y avait trop d'écart de niveau.
Ouais.
Et les frères Popov, pour le coup, il n'y avait pas trop d'écart de niveau sur le papier contre leurs adversaires, mais ils ont perdu quand même contre les Hollandais Yille van der Leck, qui connaissent malheureusement trop bien. Défaite 18-21, 21-17, 21-15. Voilà, c'est dommage, parce que pareil, tu pouvais passer sur un tour sur un Super 1000, je vais pas dire gratos, mais qui était carrément à ta portée, quoi.
Ouais, clairement, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans un creux au niveau du double. Même Christo est peut-être moins fort, moins performant en simple ces derniers temps, ça se ressent peut-être là aussi. À voir comment ils vont rebondir.
Complètement. Alors les autres paires, de qui tu veux nous parler, le tournoi a été marqué, j'ai envie de dire malheureusement, par la grosse blessure de. Il me semble que c'est Jeremia Rambitan, Benoît, qui s'est blessé.
Ouais, c'est ça. Terrible blessure. Franchement, je vous souhaite pas d'aller voir. Il a voulu aller jusqu'au bout.
Ouais, c'était triste.
Ouais, c'est dur parce qu'il me semble qu'ils ont deux ou trois volants de match quand ils se blessent. Il veut aller au bout, il tient plus debout. Et franchement, je peux vous dire que c'est dur à voir parce que je pense que c'est une très très grave blessure au genou. Donc,
Pour le contexte, c'était leur quart de finale contre Chiasso, les têtes de série 5. Effectivement, ils avaient des volants de match. Il a voulu. Il s'est blessé du coup au genou. Il a voulu quand même jouer. Du coup, les Malaisiens ont été sympas, entre guillemets. Ils ont pas servi long, ils ont servi court. Donc lui était juste devant et son partenaire jouait. Mais du coup, ils ont quand même perdu les points. Et à la fin, il s'effondre. Et il y a son entraîneur qui vient le relever. Enfin, l'enlacer tout. C'est assez terrible. Et là, je pense que il va être éloigné des terrains longtemps. Et c'est dur parce que c'est une paire qui montait bien. Ils ont gagné le All England, si je ne me trompe pas, Benoît. Non, attends, ils gagnent le All England ou ils gagnent les championnats d'Asie, je ne sais plus, je confonds avec Fikri Molana.
C'est Fikri Molana qui prennent le All England cette année.
Mais pardon, donc eux gagnent les championnats d'Asie alors. Mais ouais, c'était très dur à voir et ouais, c'est venu un peu gâcher ce tableau de double homme, entre guillemets. Chiasso qui pour moi avait quand même une opportunité en or de le remporter ce tournoi et qui ont perdu en demi contre les Chinois. Il me semble que Benoît, j'avais utilisé la phrase « personne n'est surpris ».
Oui, 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 et je pense qu'on peut en faire un petit lot avec nos potes du dessus qui ont perdu en demi à Skup Rasmussen, parce que tu parles de Chiasso, mais je pense que les deux paires sont dans le même cas, c'est qu'il y avait vraiment la place pour aller au bout, mais comme d'hab, avec eux, on n'est jamais déçus. Ben, jamais, tu sais que jamais ils vont au bout.
C'est vrai que c'est des paires où tu crois souvent qu'elles ont des occasions ou alors qu'elles ont fait le plus dur. Par exemple, quand Astrup Rasmussen ont battu Oki Kobayashi en quart. Mais derrière, les Danois n'ont pas non plus saisi l'occasion qu'ils avaient. Match assez tendu, il me semble, contre Choi Kim où ils perdent 21-18 au troisième. Je crois qu'il y avait un peu de tension et ça s'est pas mal vu.
Ouais, ouais, bon, c'était, moi je trouve que c'était sympa. Les deux se sont rendus là pareil. Personne n'a lâché le morceau. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, mais ça s'est fait à la loyale quand même. Hein. Sur le terrain, il y a.
Li Wang, qui ont perdu donc contre Kusuma Wardana Rambitan. Li Wang, qui ont un peu de mal aussi. Hein. Ils perdent dès le deuxième tour.
Ouais, je pense qu'il a du mal à se remettre de sa carrière de chanteur. Le retour est difficile.
Ouais, c'est ça. Si vous pouvez écouter le single de Wang Chili en attendant, mais faudra plus miser là-dessus que sur des trophées, j'ai l'impression, dans les mois à venir. Bon, Benoît, on va s'arrêter là.
Oui.
Pour cette partie du podcast, puisque comme je vous l'ai dit, il y en a encore une qui arrive. Globalement, on s'est régalé pendant cette tournée. Merci à toi en tout cas.
Ben, merci à toi, Ewan, et comme toujours, merci à vous pour votre écoute.
Donc voilà, merci Benoît pour cette partie. On va tout de suite commencer la deuxième avec Caroline, donc, qui était en Indonésie. Elle va nous dire comment elle a vécu le tournoi.
I'm a bad guy.
Take that.
Et donc pour cette deuxième partie, je suis avec Caroline. Salut Caroline, merci beaucoup d'être avec nous dans un premier temps.
Salut, merci pour l'invitation.
Caroline, avant de te demander de te présenter, il y a une raison spéciale pour que tu es là, pour que tu sois là. Déjà, tu connais bien le bad, mais en plus, tu es actuellement et encore maintenant, au moment où on enregistre, en Indonésie, si je ne me trompe pas.
Oui, plus à Jakarta, mais à Bali maintenant, parce que j'ai fait quelques articles et des interviews pour Bad Scene, pour les deux semaines du coup qui sont déroulées. À Jakarta pour les Indonesia Masters et Indonesia Open.
Donc voilà, toi tu vis vraiment le tournoi au plus près. Je pense qu'on pouvait difficilement faire plus près de où t'étais. Et maintenant là que c'est terminé, j'imagine que déjà ça a dû être deux semaines assez intenses.
Deux semaines très éprouvantes. Je pense que j'ai perdu un peu d'audition à être tout le temps dans le public parce que voilà, je pense que pour n'importe quelle personne qui s'est rendue dans un tournoi même en Europe, dès qu'il y a des Indonésiens, ça s'entend. Donc là, c'était vraiment ça le comble très très souvent. Donc ouais, beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance et super cool.
Tu sais combien il y a de places ou alors à peu près combien ça fait? Parce que c'est vrai qu'à l'écran, on se rend pas bien compte de la taille de la salle. Je me suis toujours demandé.
Ah, les questions pièges qui commencent. non, mais en fait, c'était beaucoup de places pour le public. Mais au niveau des terrains, au maximum, il y en avait 3. Donc après, franchement, j'ai aucune idée du nombre de personnes. Mais c'est impressionnant, quoi.
Genre par rapport aux IFB, tu le dirais comment? C'est genre deux fois plus grand?
Une fois et demi.
Ok, ouais. D'accord.
Plus grand, mais t'as moins cette impression d'être proche des terrains, je trouve.
Ok, ouais, après, ouais, ça dépend de l'agencement des salles. C'est vrai que moi, je crois que je m'étais fait la réflexion quand j'avais été aux mondiaux en Suisse. Je crois que la salle n'était pas forcément beaucoup plus grande, il n'y avait pas forcément beaucoup plus de monde, mais t'étais assez loin aux IFB. On a de la chance d'être pas trop loin des terrains.
Oui, c'est ça. Enfin, aux IFB, t'as une vue un peu plongeante. T'es bien placé. Là, ça fait salle de concert, quoi.
Ouais, je vois. Et en plus, ce concert avec le bruit des Indonésiens, ça doit être pas mal. Ça doit être assez impressionnant, mais on en reparlera après. Et du coup, avant d'aller dans le détail et tout, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que avant d'y aller, quelle idée tu te faisais de comment ça allait être ces deux tournois en Indonésie? Est-ce que ça a été conforme à ce que t'attendais? Est-ce que t'as trouvé ça plus fou ou un peu décevant? Et voilà, c'est quoi ton bilan de ces deux semaines qui ont dû être assez folles?
Ouais, forcément, quand on parle du bad, tu sais que c'est en Indonésie que ça va être avec le plus d'ambiance, même quand les joueurs, quand ils font des interviews, ils parlent très souvent de ces deux tournois en Indonésie parce qu'ils sentent le public qui les encourage. J'avais pas forcément d'attente. Mais tu vois que dès le premier, le tout premier match que j'ai regardé, c'était Christo en simple à 8h. Et à 8h, il y a déjà du monde. Donc, ça donnait un peu les bases quoi, pour les deux semaines qui allaient arriver.
Ok, ouais, j'imagine. Mais j'ai même vu une image, au niveau ambiance, qui était assez impressionnante. Je crois que c'était de l'échauffement. C'était, je sais plus, c'était Loki New contre Shu Tianchen. Je crois c'est une vidéo qui a un peu tourné de la première semaine où les mecs ils font des amortis à l'échauffement et les supporters ils sont déjà comme des fous quoi.
On sait que c'est pas que à ce match. Hein. Enfin, c'est presque à tous, que ce soit des Indonésiens ou pas. Quand ils sont à l'échauffement, ils font des petits coups dans le vide et ça crie Ea.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est ça doit être une manière de vivre le bat totalement différente. Mais on va recommencer depuis le début. On va se laisser ça pour plus tard. Tu l'as dit tout à l'heure que t'écrivais pour Badzine depuis très récemment, je crois en plus.
Le premier tournoi que j'ai fait avec eux, c'était pour à Madrid pour les championnats d'Europe. Donc là, je pense.
Ah oui, tu y étais en plus. Tu étais allé, c'est ça?
Oui, ça c'était vraiment cool.
Ouais, j'imagine un peu plus près que Jakarta en plus.
Oui, on fait étape par étape. Hein.
Voilà, c'est ça. Là, t'as quand même manqué des étapes parce que t'es passé direct dans un autre continent, à l'autre bout du monde. Ça devait être d'autant plus impressionnant.
Imagine, je commence par l'Indonésie.
Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Avec Benoît, on a parlé de forcément des perfs de Tom Jikel et Delphine Delrue à l'Indonesia Masters, donc au premier tournoi des deux, le Super 500, je crois.
Ouais,
toi, j'imagine
ça.
Que t'as pas mal. J'ai vu même pour Badzine que t'avais pas mal recueilli leurs impressions et t'as dû bien voir leur match, j'imagine, comme nous, mais toi de beaucoup plus près. Qu'est-ce que t'as pensé, surtout quand tu leur as parlé, tu les as sentis comment? On a senti que vers la fin de la semaine, de la première semaine, le public là en plus les aimait bien et tout, et c'était une semaine assez folle. Toi, c'est quoi tu les as sentis comment? Ouais.
Oui, leur semaine elle a commencé très fort parce qu'ils avaient un tableau pas facile avec les numéro 1, les Thaïlandais pour le premier tour, qu'ils ont gagné. Bon, à ta grande surprise, c'est un des seuls matchs de Tom et Delphine que j'ai pas pu voir parce que j'étais occupée avec des histoires administratives pour des visas. Et là, je regarde sur Tournament Software, ils ont gagné. tant mieux, comme ça, je pourrais les suivre pour le reste de la semaine. Et oui, du coup, j'avais la chance de pouvoir faire des interviews en zone mixte. Donc, c'est là où on interview les joueurs juste après leur match. Et ouais, je les ai sentis en confiance. Ils savaient qu'avec leur niveau de jeu actuel, ils pouvaient battre les meilleurs pairs. Le fait d'avoir battu les numéros 1 dès le premier tour, ça me met en confiance. Mais ils avaient aussi cette petite pression de se dire « Ah, on a fait une grosse paire, est-ce qu'on va réussir à réitérer par la suite ?» Et ça a été le cas, parce que même après, je crois qu'ils jouaient les Hong Kongais. Peut-être en quart.
Ouais, en quart c'était tant que c'est, ouais, exact.
Que ça passe j'ai des bons souvenirs, ça va. Et, et ouais, ils les battent assez facilement. 15 et 10. Là, j'ai révisé. Après, juste le en finale, forcément un peu déçu parce qu'ils avaient un bon départ et ensuite c'est les Chinois qui accélèrent. Mais ouais, très très bonne semaine.
Bon, après, les Chinois, ils ont montré cette semaine-là et la semaine d'après qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, qui que tu sois, en mixte, il n'y avait pas grand-chose à faire contre eux, donc à la rigueur, un peu moins de regrets. Et sur leur deuxième semaine, puisqu'on est sur Tom et Delphine, est-ce qu'il y avait des regrets à l'issue de leur défaite en quart contre Watanabe et Gashino, ou alors ils se sont dit, on a fait quand même deux grosses semaines avec 6 victoires en 2 semaines?
Ouais, forcément un peu de regret parce que dans le premier, enfin même dans tout le match, ils sont pas si loin que ça. Après, je trouve ce qui était fort aussi. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir qu'ils sont déçus de cette performance parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller chercher plus loin, quoi. Enfin, c'est super motivant pour la suite.
Oui, c'est vrai que on s'est fait pas mal cette réflexion avec Benoît dans d'autres épisodes, c'est que c'est un peu pareil pour les frères Popov, c'est que quand tu les vois déçus de perdre en quart, même ou en huitième de gros tournoi, tu te dis « Ah bah c'est bien, au moins ils ont l'ambition de faire mieux, quoi. »
Ouais, c'est ça, et même d'arriver à avoir de la lucidité. Enfin, je pense que c'est pas facile d'être en zone mixte juste après ton match que si tu l'as perdu, et d'arriver à à ressortir ce qui a fait que ça a pu passer de l'autre côté et ce sur quoi tu pourrais t'améliorer, quoi.
Ouais, non, complètement. C'est quoi les... j'imagine qu'il y a pas mal de matchs qui doivent se mélanger dans ta tête avec tout ce que t'as vu. C'est quoi les matchs ou les moments ou les joueurs-joueuses qui t'ont marqué?
Ouais, je pense que c'est plus en termes de joueurs que de matchs, parce que les matchs... J'aurais peut-être dû compter le nombre de matchs que j'ai vus en 2 semaines. C'était compact, intense.
Ouais, j'imagine.
En joueur, le plus impressionnant, Axelsen. Je pense que les scores qu'il a mis, c'est... Voilà, quoi. Je pense qu'il a mis 21-4, 21-8 à Tsuneyama, à l'Indonesia Open.
Ouais,
même en finale, le Chinois qui joue, il se prend 2-7 rapide. Tu vois qu'en face, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc, vraiment très, très impressionnant, même pour l'ambiance. Je ne sais pas si... à la finale, encore une fois, dans le public, ils étaient en train de crier Papa Vega par rapport au nom de cette.
Ouais.
C'est trop mignon. Voilà, en termes c'est de joueurs, je pense surtout Axelsen.
Mais c'est vrai qu'Axelsen, bon, il était déjà très populaire, mais depuis qu'il y a sa fille, en plus, il joue pas mal dessus, il la met beaucoup en photo sur les réseaux sociaux et tout, mais du coup, le public l'adore encore plus, et en Indonésie, j'imagine que ça doit être décuplé encore.
Oui, parfois, tu vois la caméra qui se tourne vers Vega, ou alors, je pense que sur le podium, elle a dû venir avec lui aussi. Voilà, quoi. Je pense qu'elle est plongée dans le bad, elle a toujours sa petite tenue Axelsen pour venir voir les matchs.
Sa petite tenue Yonex, ouais.
Yonex, c'est vrai que
c'est... C'est vrai que c'est mignon. Mais ok, et sinon, est-ce que ouais, il y a d'autres joueurs ou d'autres moments qui t'ont marqué?
Joueurs indonésiens en général, parce que pour l'ambiance, que ce soit même. Enfin, je pense qu'en France, peut-être, on a un peu moins ça. Quand tu avais des Indonésiens contre des Indonésiens, ça encourageait énormément. Alors que, enfin, je sais pas, ça encourageait énormément, alors qu'ils n'étaient pas forcément pour une paire plus que l'autre.
Le public choisissait un camp, ou alors ils étaient en mode on encourage généralement, quoi. On veut juste voir un beau match.
Non, pas tant que ça, vraiment pour le beau jeu. Et... Même si c'est des adversaires des Indonésiens, ils vont reconnaître que c'est un beau point et ils vont applaudir. C'est vraiment toujours avec de la bonne énergie, tout le monde sourit, tout le monde est contente pour le bad. C'est une autre dimension.
C'est vrai que des matchs que j'ai vus moi, ça a vraiment l'air d'être un public de connaisseurs. Les Indonésiens, ils aiment les beaux gestes, ils aiment quand ça va vite. C'est pour ça que je me suis dit que... Enfin, je me suis fait cette réflexion quand je voyais les matchs de Tom et Delphine à la première semaine. C'est vrai que quand ça accélérait pas mal du côté des Français, quel que soit l'adversaire, même quand c'était des paires asiatiques, tu voyais que les Indonésiens appréciaient pas mal ce style de jeu, quoi.
Ouais, alors quand t'as un joueur qui est un peu en retard au score, ils vont essayer de l'encourager pour qu'il puisse sauver le plus de volants de set, voire de match. Enfin, vraiment très très bonne ambiance.
Ouais, j'imagine. L'ambiance, je me suis dit, elle a dû être encore plus particulière quand c'était Gideon et Sukamulyo qui jouaient. Est-ce que tu peux décrire? Parce que moi, j'ai juste vu des images et de l'audio qui saturait de ouf sur le site de la BWF, mais j'imagine que ça devait être encore plus la folie quand c'était ces deux-là qui jouaient.
Mais tu sais que c'est tellement énorme là-bas que, je pense, si tu regardes juste le public, tu peux deviner que Gideon et Sukamulyo arrivent, quoi. Parce que avant que leur match soit lancé, il y a tout le monde, enfin beaucoup de monde qui se précipite au niveau de là où ils vont marcher pour accéder au terrain. Et ils sortent tous leur téléphone, ils se lèvent tous et après t'entends des personnes dans le public derrière dire asseyez-vous et tout pour qu'on puisse voir. Donc, vraiment, ils sont au courant que les joueurs vont arriver avant que ce soit affiché sur les écrans. Pareil, ça crie tout le temps. Ils passent pas inaperçus, quoi. Et même pour sortir de la zone, enfin de d'Istora, du gymnase, tu vois qu'il y a ça fait un peu superstar avec les voitures qui ont des vitres teintées, la sécurité de partout, très différent.
Oui, c'est drôle parce que tu te dis que Gideon Sukamulyo, quand ils viennent aux IFB, ils marchent tranquillement dans la rue à Paris, ils s'en fichent parce que personne les connaisse. Là, ça doit être tout autre chose, là, j'imagine.
Ouais, je sais pas comment ils font pour gérer ça, de se dire, c'est un peu comme s'ils avaient deux vies différentes, je sais pas. Mais à la limite, tant mieux pour eux aussi, ça leur permet de gérer et d'avoir une vie normale.
Ouais, je pense que ça doit leur faire du bien quand ils viennent en France. Mais du coup, je me demandais parce que eux, ces derniers temps, ils ont pas été dingues. Là, Gideon, il revenait de blessure. Du coup, ils font demi la première semaine et huitième, il me semble, la deuxième semaine. Du coup, ça a été quand même pas mal décevant. Et ils ont toujours cette attitude sur le terrain, surtout sous Camullo, où des fois ils courent pas et des fois ils jouent pas. Est-ce que des fois le public a un peu remonté contre eux en mode bougez-vous un peu, donnez-nous un peu de spectacle et tout, ou alors quand ils perdent, je vais pas dire qu'ils se font huer, mais est-ce qu'il y a des, on va dire, des critiques, ou alors on voit que le public est un peu énervé, ou alors est-ce qu'ils sont derrière eux à 100% quoi qu'il arrive, et même quand ils perdent, ils sont en mode bon bah tant pis.
Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, surtout sous Camullo, forcément, qui montre un peu qu'ils s'en fichent, quoi. Et après, ils te sortent des petits coups croisés qui peuvent surprendre. Mais après, ouais. Au niveau du public, j'ai pas senti ça. Enfin, je pense qu'ils étaient quand même derrière eux à fond.
Ouais, parce que en fait ça confirme l'impression que j'avais, parce que moi je me disais au bout d'un moment les mecs c'est des idoles, mais s'ils continuent à se moquer du monde, tu vois, peut-être que le public va être un peu remonté. Et en fait c'est vrai que j'avais vraiment l'impression inverse, en mode ils ont un statut tellement particulier que même quand ils perdent le public essaye de les encourager jusqu'à le volant de match, et même quand ça perd c'est pas grave quoi.
Ouais, bon, ils applaudissent un peu moins fort. Mais un peu ouais. Moins fort, ça veut quand même dire très fort en Indonésie. Donc, c'est plus dur de voir les nuances, quoi.
Et tout à l'heure, tu parlais d'Axelsen. Est-ce qu'il y a des joueurs étrangers qui ont été particulièrement applaudis, ou que tu as l'impression qu'ils ont été particulièrement aimés du public?
Ouais, tout à l'heure, tu parlais de Locking You et Shou Tianchen. Eux, c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup joué avec le public. Typiquement, à l'échauffement, quand tu fais des coups dans le vide pour que le public ouais. Crie, à la fin, pour célébrer, ils célèbrent pendant super longtemps. Le match, il est fini depuis 15 minutes, ils sont encore là. Et ils vont t'envoyer des volants dans le public. Enfin, ouais. Les deux les plus... qui faisaient le plus le show, je pense. Hors indonésien, j'ai lu Locking You et Shou Tianchen.
En plus c'est deux mecs qui ont l'air assez sympas dans le circuit, donc ouais, ça m'étonne pas que ce soit le cas. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des joueurs joueuses où t'as l'impression que, enfin, j'imagine que les adversaires des Indonésiens ça doit être particulier, mais y a pas de joueurs qui se sont mis le public à dos ou des trucs comme ça?
Non, je pense pas. Après, j'étais là les deux semaines, mais j'ai pas vu tous les matchs, mais oui. Non, je pense pas. Enfin, vraiment, ce que je retiens du public indonésien, c'est très bonne ambiance et ils encouragent. Là, tu disais les adversaires des Indonésiens, mais même les adversaires, à la limite, ils regardent encore plus ton match. Du coup, si tu fais des beaux points, ils sont encore plus prêts à t'encourager. Donc, non, vraiment très positif à ce niveau-là.
Ok. Franchement, ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que tu te dis, c'est pas comme dans d'autres sports où quand il y a un public un peu chaud, il peut essayer de s'en servir, on va dire, pour déconcentrer ou alors les adversaires de leur joueur ou joueuse. Donc c'est assez c'est cool en fait que ce soit comme ça.
Les seuls moments où ils peuvent huer, mais encore ça dure 3 secondes, c'est si t'as des pairs qui font semblant de pas être prêtes au service, ou alors ils veulent changer de volant, mais tu sens que c'est un changement de volant stratégique et pas parce que le volant est abîmé. Mais voilà, ça dure 3 secondes, quoi.
Ouais, ok, je vois. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, des anecdotes sur ce que t'as vu, des trucs qui t'ont surpris sur le fonctionnement ou des trucs comme ça ou...
Anecdote, je pense que c'est dans le public. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un des premiers jours quand je suis arrivée pour les Indonesia Masters. Je vois une personne qui descend du public avec une sorte de chapeau sur la tête. Franchement, ça va être très dur à décrire. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Mais un truc confectionné à la main. Faut avoir de l'imagination. Et t'avais plein de volants accrochés un peu comme une perruque. Donc on va dire, imagine une perruque avec plein de volants, bref,
okay.
Très atypique. Et comme c'était un des premiers jours, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont... ça va arriver souvent, des personnes qui débarquent comme ça, mais en fait, non, t'en as quand même que 2-3, pas toute la salle non plus. T'avais un monsieur qui était habillé tous les jours avec des tenues différentes aux couleurs de l'Indonésie, donc en rouge et blanc.
Voilà, ça c'est de la motivation.
Extravagante, quoi, qui va chercher le public et qui leur dit quand il est pas content parce qu'ils ont pas assez encouragé. ouais, je pense que ça se joue plutôt dans le public. Après, je te disais tout à l'heure, Axel Sen, le fait qu'il l'encourage en disant Papa Vega, c'est un peu original.
Ah oui, j'ai vu des images en plus. Il y avait même un moment, je sais pas si tu l'as vu dans le public, il y avait des gens avec des pancartes où ils écrivaient Papa Vega, chacun
ah oui,
avec
une
lettre.
En face, ah ben voilà, ouais. Et justement, à la fin du match, il a lancé une raquette et je crois qu'il leur a donné son maillot à ceux qui avaient les pancartes Papa Vega. Donc vous savez quoi faire si vous voulez un maillot SJP.
Voilà, si vous voulez un maillot d'Axel Sen et que vous avez 7 amis qui peuvent faire une pancarte avec vous, faites ça.
Si vous êtes 8, vous mettez un point d'exclamation, ça peut passer, je pense.
Bah voilà. Non, mais c'est vrai que tous les joueurs, comme tu l'as dit au tout début, les joueurs en parlent tout le temps de l'Indonésie. Ça revient souvent dans les tournois où ils aiment jouer, où ils préfèrent jouer. Et en fait, quand tu vois les images, mais j'imagine encore plus pour toi, quand tu as été dans la salle pendant 2 semaines, tu dois vraiment comprendre pourquoi les joueurs aiment jouer là, quoi.
Ils veulent le truc avec toi, quoi. Limite, s'ils sont pas sur le terrain à t'aider. voilà quoi, notre dimension. Ah oui, du coup, je regardais, j'avais fait une petite liste d'anecdotes. autre anecdote, il y a un journaliste qui est, donc pareil en zone mixte, donc juste après les matchs, il pose des questions à Tai Tsuling, blablabla, bravo pour ton retour, c'est bon, tu vas pas arrêter ta carrière maintenant, etc. Et ensuite, il lui dit en dernière question un peu à l'arrache. Et du coup, j'ai vu que le prize money était assez important. Est-ce que vous savez comment vous allez le dépenser? Et là, elle te dit, mais je sais même pas combien j'ai gagné. J'ai pas regardé. Alors que le montant, il est vraiment énorme. Je crois que c'était plus de 80 000 en dollars US.
Mais ah bon. Ouais, ok. Pour,
ouais. Une petite,
pour du bad, c'est énorme.
Une goutte d'eau de plus. Je sais pas, en fait, j'ai aucune idée des ordres de grandeur, le bad. Mais tu penses du coup que c'est en Indonésie qui donne le plus de prize money ou le fait que ce soit un super mille, ils ont
dans les mêmes montants? Alors déjà le fait que ce soit un super mille, du coup c'est plus que par exemple à Paris, je pense que t'as une fourchette. Mais par contre, ça, c'est. Il faudrait que je m'y intéresse. Je sais pas si par exemple c'est plus que. Je sais pas si par exemple c'est plus que au All England, tu vois. Mais ou alors que au China Open. Mais faudrait que je m'y intéresse pour comparer. Mais par contre, ouais, ça me paraît vraiment étrange que Tai Tsuing, elle sache même pas combien elle va gagner. Ça, c'est.
Elle a dit sa priorité, c'est se reposer. Et elle regardera le lendemain.
Elle a tout le temps envie de se reposer, Tai Tsuing. Bon, après, quand tu vois les matchs qu'elle a fait cette semaine et la semaine d'avant, on peut difficilement lui en vouloir.
Hein. J'adore son style de jeu, en plus. Je pense que c'est peut-être une de mes choses préférées, hein. Simple dame, avec les amortis croisés, là. J'adore.
Ouais, et puis en plus quand elle est en forme, son physique suit derrière, franchement c'est impressionnant. Visiblement là je suis en train de regarder pendant qu'on parle, j'ai l'impression que les super 1000 c'est tout le temps pas loin de ce que tu avais dit, c'est 70 000 dollars pour le vainqueur.
Ah, on n'est plus à 10 000 euros, 10 000 dollars, pardon.
Voilà. Après, là je suis sur All England 2022 c'était 70 000, donc j'imagine que ça doit être un peu pareil partout, mais ouais. Après, Tai Tsuing, je pense que avec tous les partenariats qu'elle fait et tout, je pense qu'elle, elle est relativement sécure à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, elle disait aussi en zone mixte, elle continue ses études. Je savais même pas que.
Ah oui, j'ai vu. Oui, là, elle vient d'avoir un truc là, je crois. Ouais, je crois, je sais plus ce qu'elle vient d'avoir, mais ouais, elle est vraiment forte parce que elle gagne des tournois et tout, et en même temps elle poursuit des études. Franchement, c'est impressionnant. Ah bah non, pardon, t'avais raison. Là pour l'Indonésie, c'est plus que les deux autres, c'est 84 000 $ pour le vainqueur.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, je disais plus que les deux autres. Quels deux autres?
Ouais, plus que les deux autres Super 1000, donc plus que All England et le China Open. Donc peut-être une autre raison pour laquelle les joueurs préfèrent aller en Indonésie, si tu gagnes plus d'argent.
Mais non, c'est pour la passion.
Ouais, voilà, on va dire ça. Eh ben, moi, j'en ai fini, en tout cas. J'imagine que... Est-ce que tu vas te reposer un peu après ces deux semaines intenses?
Oui, bah là, je suis à Bali, donc c'est bien parti. Mais ouais, c'est vrai que c'était intense. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit... Enfin, moi, je suis quand même assez passionnée du bad pour aller jusqu'en Indonésie voir des matchs. Mais,
ouais, on peut dire ça, je pense.
Deux semaines, c'est quand même super long avec les matchs toute la journée. Et surtout le bruit, je pense, ça fait un peu un... Enfin, c'est très bien pour le bad, mais quand ça fait deux semaines, ça peut faire un peu un bruit de fond. Et... Conseil, si vous allez en Indonésie, ne restez pas à côté des haut-parleurs, même si c'est pour voir un match de Tom et Delphine. Ça a des conséquences.
Ouais, là j'imagine que tu dois être contente de retrouver un peu de calme. Et je pense que Bali, ça doit être le bon endroit pour faire ça.
Oui, c'est plus calme. Je vais faire du yoga ou pas.
Voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu en parler. C'est vrai que nous, on parle avec Benoît des tournois de loin, mais là, t'étais au plus près, là, on peut le dire. Donc, c'était trop cool d'avoir ton regard sur les deux semaines que t'as passées.
Ben, merci pour l'invitation, encore une fois, et bon courage dans vos prochains épisodes.
Ben voilà, et puis j'espère que tu reviendras faire des épisodes avec nous, peut-être quand tu seras revenu en France. Si jamais tu veux revenir un jour, je comprendrai que tu veuilles pas.
Mais tu sais que j'ai rencontré plein de personnes en Indonésie qui disaient « Ah, est-ce que tu as déjà pris ton billet de retour ?» Parce que nous, non, ça fait 3 ans. Donc apparemment, c'est quelque chose qui se fait.
Ah ok, bah, je savais même pas, mais en même temps, je peux comprendre. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir écouté ce long épisode. J'espère qu'il vous a plu, mais en tout cas là, vous avez eu votre dose avec celui-ci et celui de la semaine dernière d'Indonésie. Voilà, merci à Caroline et à Benoît donc qui étaient avec moi pendant cet épisode, et merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve lundi prochain pour un épisode qui, j'espère, je vous le spoil pas, mais qui, je pense, sera intéressant. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour l'écouter. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。在经历着平凡。